Vidocq, mémoire. Une nuit dont j'avais passé la moitié dans les mauvais lieux de la halle, espérant y rencontrer quelques voleurs qui, dans un accès de cette bonhomie que produisent deux ou trois coups de paf versés à propos, se laisseraient tirer la carotte sur leurs affaires passées, présentes et futures, je me retirais assez content d'avoir, au détriment de mon estomac, avec en pure perte bon nombre de petits verres de cet esprit mitigé auquel le vitriol donne du montant, lorsque, tout près du coin de la rue des Coutures Saint-Gervais, j'aperçus plusieurs individus blottis dans des embrasures de portes. À la lueur des réverbères, je ne tardais pas à distinguer auprès d'eux des paquets dont on s'efforçait de dissimuler le volume, mais dont la blancheur indiscrète ne pouvait manquer d'attirer les regards. Des paquets à cette heure et des hommes qui cherchent leur prix d'une embrasure au moment où il ne tombe pas une goutte d'eau, il ne fallait pas une sorte dose de perspicacité pour trouver dans un tel concours de circonstances tout ce qui caractérise une occurrence suspecte. J'en conclus que les hommes sont des voleurs et les paquets le destin qu'ils viennent de faire. « C'est bon, me dis-je, faisons mine de rien, suivons le cortège quand il se mettra en marche et s'il passe devant un corps de garde, enfoncé. Dans le cas contraire, je les mène coucher chez eux, je prends leur numéro et je leur envoie la police. Je file en conséquence mon nœud, sans paraître m'inquiéter de ce que je laisse derrière moi. Et à peine je fais 10 pas, l'on m'appelle Jean-Louis. C'est la voix d'un ami riche que j'avais souvent rencontré dans des réunions de voleurs. Je m'arrête. Eh, bonsoir, cher, lui dis-je. Quel diable fais-tu à cette heure dans ce quartier? Es-tu seul? Comme tu as l'air effrayé, on serait à moins. Je viens de manquer d'être enfluqué sur le boulevard du Temple. Enfluqué? Pourquoi? Pourquoi? Tiens, avance. Vois-tu les habits là, et les baluchons? Oh, tu m'en diras tant, si vous êtes fatigué de Carlotte Grassuy, si vous êtes chargé de marchandises volées. Je m'approche, et soudain toute la bande se lève, et dès qu'ils sont debout, je reconnais La Pierre, Candéry, Lenoir et Duisson. Tous quatre s'empressent de me faire bon accueil et de me tendre la main de l'amitié. Comme Henri. Ben, nous l'avons échappé belle. J'en ai encore le palpitant qui bat la générale. Pose ta main là-dessus, sans comme il fait tic-tac. Moi. Oh, ce n'est rien. La Pierre. Oh, c'est que nous avons eu le moresque. La peur d'une fière force. Je sais bien que, quand je me suis senti les verres, à vous le truffer me faisait trembler un peu, toi. Du Buisson. Et par-dessus le marché, les hirondelles de la grève, que nous sommes entendus nez à nez avec leurs chevaux, au détour presque en face la gaieté. Moi. Et que vous êtes mignon. Il fallait faire greffer un Roland pour y planquer les vaccins. Il fallait faire stationner un fiacre afin d'y placer les paquets. Vous n'êtes que des pégriots. Mauvais voleur. Richelot. Pégriot autant que tu voudras, mais nous n'avons pas de roulant. Il faut se tirer de là. C'est pour ça que nous sommes jetés dans les petites rues. Moi. Et où allez-vous maintenant? Si je puis vous être utile à quelque chose, Richelot. Oh, si tu veux marcher en éclaireur et venir avec nous jusque dans la rue Saint-Sébastien. Nous allons déposer ces fleurettes. T'auras ton fade, ta part. Mais avec plaisir, les amis. Richelot. En ce cas, le passe devant et allume. Si tu mouches la rue ou la patraque, et regarde si tu vois des bourgeois ou la patrouille. Aussitôt, Richelot et ses compagnons se saisissent des paquets et je me porte en avant. Le trajet fut heureux. Nous arrivâmes sans encombre à la porte de la maison. Chacun de nous se déchausse pour faire moins de bruit en montant. Nous voici sur le palier du troisième. On nous attendait, une porte ouverte s'ouvre doucement et nous entrons dans une vaste chambre faiblement éclairée dont le locataire, que je reconnais, est un garçon de chantier qui avait déjà été repris de justice, bien qu'il ne me connaisse pas. Ma présence paraît l'inquiéter. Et pendant qu'il aide à cacher les paquets sous le lit, je crois remarquer qu'il m'adresse à voix basse à une question dont la réponse hautement articulée me dévoile la teneur. Richelot. « Oui, c'est Jean-Louis, un bon enfant. Sois tranquille, il est franc. » Le locataire. « Tant mieux, il y a aujourd'hui tant de rails et de cuisiniers qu'il n'y a plus de fiottes du tout. » La bière. « Calme, calme, j'en réponds comme de moi. C'est un ami, un Français. » Le locataire. « Oh, puisque c'est comme ça, je m'en rapporte. » Là-dessus, elle est buvant la goutte. Il monte sur une espèce de tabouret et, passant son bras sur la corniche d'une vieille armoire, il en ramène une vessie pleine. « Lave-la, l'enflée. C'est de l'eau d'aff, c'est de l'eau de vie. Elle est toute mourelle, chic, celle-là. C'est moi qui l'ai enterrée. » « Allô, Jean-Louis, toi, à la tienne, j'entame. »« Volontiers, dis-je. » Je verse dans un grand verre et je bois. « Oh, c'est fichu. Elle est bonne. Oh, ça veut du bien par où ça passe. Allez, à ton tour, la pierre. Rince-toi le gosier. » Le grenier et la vessie passent de main en main, et quand chacun est suffisamment abreuvé, nous nous jetons sur le lit en travers jusqu'au lendemain. Au petit jour, on entend dans la rue le cri d'un rabonneur. On sait que dans Paris, les Savoyards sont les coqs des quartiers déserts. Richelot, secouant son voisin. Hé, la pierre! Allons-nous chez la frangade? Chez la recelleuse? La pierre, laisse-moi dormir. Richelot. Voyons, bouge-toi donc. La pierre, va, seul, ou alors emmène le noir. Richelot. Bien, viens plus tôt, toi qui as déjà. Velu, vendu, c'est plus sûr. La pierre. Bon, voilà, paix, j'ai trop sommeil. Moi. Eh mon Dieu, que vous êtes feignant. Ben, je vais y aller, moi, si vous voulez m'indiquer sa demeure. Richelot. T'as raison, Jean-Louis. Mais la fourgade n'a pas encore vu. Elle veut fourguer Carou. Puisque tu te proposes, ben, nous irons ensemble. Moi, oui, et à nous deux, ça fera qu'une autre fois, elle connaîtra ma frimousse. Nous partons. La fourgade restait rue de Bretagne, numéro 14, dans la maison d'un charcutier qui, vraisemblablement, était le propriétaire. Richelot entre dans la boutique et s'informe si, Madame Brun est chez elle. Oui, lui répond-on, et après avoir enfilé l'allée, nous grimpons l'escalier jusqu'au troisième. Madame Brun n'est pas sortie, mais elle tient à l'honneur. Elle ne veut absolument rien recevoir dans le jour. Au moins, lui dit Richelot, si vous ne pouvez pas prendre à présent la marchandise, donnez-nous un acompte. Allez, c'est du bon butin, et puis vous savez que nous sommes honnêtes. Oui, c'est vrai, mais pour vos beaux yeux, je ne puis pas me compromettre. Revenez ce soir. La nuit, tous les chats sont gris. Richelot l'a pris par tous les bouts pour lui arracher quelques pièces, mais elle fut inexorable. Et nous nous retirâmes sans avoir rien obtenu. Mon compagnon pestait, jurait, tempêtait. Oh, il fallait l'entendre. Eh oui, lui dis-je, ne croirait-on pas que tout est perdu? Mais pourquoi te chagriner? Qui refuse, muse. Si elle ne veut pas, une autre voudra. Viens avec moi chez ma Faujate. Je suis sûr qu'elle nous prêtera 4 ou 5 d'une de 5 pièces de 5 francs. Nous le rendons au 9 Saint-François, où j'avais mon domicile, et d'un coup de sifflet, je me fais entendre à Annette. Elle descend rapidement et vient nous rejoindre au coin de la vieille rue du Temple. Bonjour, madame. Bonjour, Jean-Louis. Tenez, si vous étiez bon enfant, vous me prêteriez 20 francs et ce soir je vous les rendrai. Oui, ce soir, si vous avez gagné quelque chose, vous irez la courtille. Non, non, je vous assure que je serai exact. C'est-il bien vrai? Oh, je ne veux pas vous refuser, mais venez avec moi, tandis que votre camarade ira vous attendre au bar, cabaret du coin de la rue de l'Étoile. Seul avec Annette, je lui donnai mes instructions, et lorsque je fus certain qu'elle m'avait bien compris, j'allai rejoindre Richelot au cabaret. « Voilà, lui dis-je, en lui montrant les 20 francs, ce qui s'appelle une large et une bonne. Parbleu, il n'y a qu'à lui bloquer pas que ça. Est-ce qu'elle en voudrait? Elle ne fourgue que des blanquettes, des bauges et des bregueuils. Elle n'achète que de l'argenterie, des montres et des bijoux. C'est dommage, car c'est une bonne... c'est comme ça qu'il en faudrait une. » Et après avoir vidé notre chopine, nous nous mîmes en route pour regagner le premier logis où nous rentrâmes avec une oie normande de première taille et une assiette assortie à la lyonnaise. Je mis en même temps l'argent en évidence, et comme il était destiné à nous ravitailler, notre hôtel Toten alla nous chercher 12 litres de vin et 3 pains de 4 livres. Et nous avions si bon appétit que toutes ces provisions ne firent en quelque sorte que de paraître et disparaître. La vessie, oui, renflée d'eau, d'aff, fut presque possédée jusqu'à la dernière goutte. Notre réflexion prise, on parla de procéder à l'ouverture des paquets. Ils contenaient du linge magnifique, des draps, des chemises d'une finesse extrême, des robes garnies de superbes mailles brodées, des cravates, des bas, etc. Et tous ces objets étaient encore mouillés. Les voleurs me racontèrent qu'ils avaient fait cette capture dans un des plus belles maisons de la rue de l'Échiquier, où ils s'étaient introduits par une croisée dont ils avaient brisé les barreaux de fer. L'inventaire terminé, j'ouvris la vide, fait divers. L'eau, afin de ne pas tout vendre, dans le même endroit. J'insinuais que l'on donnerait autant pour chaque moitié que pour la totalité, et qu'il valait mieux des fois qu'une. Les camarades se rangèrent de mon opinion, et l'on fit deux parts du butin. Maintenant, il s'agissait d'opérer le placement. Ils étaient déjà sûrs de la vente d'un lot, mais il leur fallait un acquéreur pour le surplus. Un marchand d'habits, surnommé la Poume Rouge, restait rue de la Juiverie. Et ce fut l'individu que je leur indiquai. Depuis longtemps, il m'était signalé comme achetant du premier venu. Il se présentait une occasion de le mettre à l'épreuve. Je ne voulais pas la laisser échapper. Et s'il succombait, le résultat de mes combinaisons était bien plus beau, puisqu'au lieu d'une receleur, j'en faisais arrêter deux, et que je faisais ainsi d'une pierre trois coups. Il fut convenu qu'on ferait des offres à mon homme, mais on ne pouvait en rien tenter avant la nuit, et jusque-là il y avait de quoi s'ennuyer mortellement. Que dire ? Parmi les voleurs, le commun des martyrs n'a pas assez de ressources dans l'esprit pour se tenir compagnie plus d'un quart d'heure. Que faire ? Les grâches ne font rien quand ils travaillent pas, et quand ils travaillent, il ne faut rien non plus. Cependant, il faut tuer le temps. Nous avons encore quelque argent devant nous. Alors on vote du vin par acclamation, et nous voilà de nouveau occupés de tuer Fété Bacchus. Les fils de Mercure boivent sec et dru. Mais on ne peut pas toujours boire. Si encore les buveurs étaient comme le tonneau des Danaïdes, ouvert par un bout et défoncé par l'autre, le dégoût ne reviendrait pas de plénitude. Malheureusement, chacun a sa capacité. Et quand, entre la vessie et le cerveau, le fleuve dont l'embouchure est trop petite remonte vers sa source, il n'y a pas à dire, mon bel ami, si l'on veut éviter le débordement, il faut chômer. Et c'est ce que firent nos compagnons. Comme ils pensaient avoir besoin de leur tête pour un peu plus tard, et que déjà un épais brouillard s'amoncelait sous la voûte osseuse qui ouvre le souterrain instigateur de nos actions, afin de ne pas perdre la boussole, ils cessèrent insensiblement de faire de leur bouche un entonnoir et l'ouvrir plus que pour jaboter. De quoi s'entretenaient-ils ? La conversation qu'ils eurent été très embarrassés d'alimenter autrement roulait sur le camarade qui était auprès, sur ce qui était en germant, en jugement. Il parlait aussi des rails, des mouchards. « À propos des rails, dit le garçon de chantier, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'un fameux coquin qui s'est fait cuisinier, mouchard, Vidocq. Le connaissez-vous, vous autres ?»« Tous ensemble. » Et je fis chorus. « Oui, 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 de nom simplement. » Dubuisson. « Oh, je crois bien qu'on en parle. On dit qu'il vient du pré au bagne, où il était gerbé à 24 loges, condamné à 24 ans. » Le garçon de chantier. « Tu y es pas, Nigo. Vidocq, un grinche qui était pire que la vie à cause de ses visions, ses évasions. Il est sorti parce qu'il a promis de faire servir les amis. À propos de rail, dit le garçon de chantier, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'un fameux coquin qui s'est fait cuisinier, Mouchard, Vidocq. Le connaissez-vous, vous autres ? et tous ensemble, et moi qui fais chorus avec eux. Oui, de non, simplement. Du Buisson. Oh, je crois bien qu'on en parle. On dit qu'il vient du pré, où il était gerbé, au loin que 24 longes, condamné à 24 ans. Le garçon de chantier. Tu y es pas, couillet, Nigo. Suidoc, c'est un grinche, qui était pire qu'un vioc, à vie, à cause de ses évasions. Il est sorti parce qu'il a promis de faire sortir les amis. C'est que pour ça qu'on le tient à Paris. C'est un malin, oh, quand il veut faire un flaquez un pègre, il cherche pour se faire la bise avec lui, et sitôt que les amis, il lui refile des objets grinchis dans ses poches, et puis tout est dit. Zoubin, il l'emmène sur une affaire pour qu'il soit servi marron. C'est lui qui a emballé Blanqui, Jacquet et Malvino. Oh mon Dieu, oui, c'est lui. Attendez, que je vous conte comme il les a étourdis. Ensemble, et je fais encore chorus. Étourdis, oh, que c'est bien dit. Et dans un boire avec un autre brigand comme lui, vous savez, hein, le faubourien Riboulet, l'homme à Manon. Ah, Manon la blonde, c'est ça, juste. Alors on parle de choses et d'autres. Vidocq est comme ça qui dit comme ça qu'il vient du pré, qui voudrait trouver des amis pour goupiner. Les autres coupent dans le pont, donnent dans le panneau. Il les entortille, si bien qu'il les mène sur l'affaire rue du Grand Sudeur. C'était censé qu'il ferait la gaffe. La gaffe pour la raille, pour la police. Car aussitôt fatigué, fargué, sitôt marron. Alors on les emmène tous, et pendant ce temps-là, le gueusard d'écart se sauve avec son camarade. Ainsi voilà comment il s'y prend pour faire tomber les bons enfants. C'est lui qui a fait brûler et guillotiner tous les chauffeurs dont il était le premier en tête. Et chaque fois que le narrateur s'interrompait, nous nous rafraîchissions d'un coup de vin. La pierre, profitant d'une de ses pauses, prend la parole. « Qu'est-ce qui nous embête ? Il parle comme mon chien !» De la langue de ces messieurs, ces deux mots « embêté » et « chien » sont des synonymes qu'ils emploient, mais je m'abstiens de les rapporter. Il est inspiré. Quoi que ça nous abuse, moi je veux m'abuser. Le garçon de chantier. Et que donc que faire, toi? Si j'avais des brèches, que des cartes, on pourrait flâner, jouer. La pierre. Ah, ce que je veux faire. Je veux jouer les Miss Locke. La comédie. Le garçon de chantier. Allô, monsieur Talmar. La pierre. Est-ce que je peux jouer seul? Oslo. Me l'otèdre, mais quelle pièce? Du Buisson. La pièce de César. Tu sais bien qu'il y en a un qui dit premier qui fut roi fut un soldat heureux. La pierre. Non, c'est pas tout ça. Faut jouer la pièce de Vidocq enfoncé, après avoir vendu ses frères comme Joseph. Je ne savais trop que penser de cette singulière boutade. Cependant, sans me déconcerter, je m'écriais tout à coup « Mais c'est moi qui ferai Vidocq. On dit qu'il est gros, ça sera ma taille. Ça me convient. Oh, t'es gros, me dit le noir, mais il fait bien plus gros encore. C'est égal, observa la pierre. Jean-Louis, il est pas trop mal comme ça. Non, non, va, allez, il pèse son poids. Alors, faut pas tant de beurre pour un cartelon, se prit à dire Rousselot en transportant une table dans un des coins de la chambre. Toi, Jean-Louis, et toi, la pierre, plantez-vous là. Le noir, du Buisson à Étienne, ainsi s'appelait le garçon de chantier, vont se mettre à l'autre bout. Il faut des amis et moi en face pour leur lit, pieux ou que je le fais public. Quoique c'est public, reprend Étienne. Eh oui, le monde s'y entend mieux. Est-il bûcheux, le garçon chantier? Je suis un spectateur. Eh non, fichu bête, c'est moi. T'es un ami. À toi, pousse. Voilà le spectacle qui va commencer. Nous sommes censés dans une guinguette de la courtille. Chacun cause de son côté, je me lève, et sous prétexte de demander du tabac, je lis conversation avec les amis de l'autre table. Je lance quelques mots d'argot. On voit que je l'entrave, que je suis au fait de la langue. On me fait un sourire d'intelligence que je rends et devient constant que nous sommes des gens de même métier. Dès lors arrivent les politesses d'usage. C'est un verre de plus qu'il faut. Je déplore la dureté des temps. Je me plains de ne pouvoir goupiner. On me plaint, on se plaint. Et nous entrons dans la période de l'attendrissement et de la pitié. Je maudis la raille, oh, maudite aussi. Je peste contre le quart d'œil, le commissaire de mon quartier, qui n'a pas la bonne, qui ne m'aime pas. Et les amis se regardent, ils délibèrent des yeux et se consultent sur l'opportunité de. Les inconvénients de mon affectation. On me prend la main, on me la presse. Je rends. Il est convenu qu'on peut compter sur moi. Ensuite vient la proposition. Le rôle que je joue est à quelques variantes près celui que je jouerai incessamment. Seulement, je change un peu, je charge. En mettant des objets volés dans la poche des amis. Alors ça va entendre ensuite une salve générale d'applaudissements accompagnée de gros éclats de rire. Bien tapé, bien tapé! S'écrient à la fois les auteurs, les acteurs et le témoin de cette scène. Bien tapé! Oh, je dis pas non, reprit Richelot. Mais voilà la Bourguignon, le soleil, qui baisse. Il est temps de blottir, de vendre. La pièce s'achèvera dans le roulant, dans le fiacre, ou bien en revenant de Fourguet. Je vais en chercher un. C'est-il votre sentiment, les autres? Oh oui, partons. Le drame était en bon train. Nous nous approchions de la péripétie. Mais elle devait être tout autre que ces messieurs ne l'avaient prévu, car le dénouement ne devait nullement répondre au titre de la pièce. Nous montâmes tous en voiture et nous ordonnâmes au Courvoisier d'arrêter au coin de la rue de Bretagne et de celle de la Touraine. Le nommé Bras, l'un des receleurs, restait à quatre pas. Dubuisson, Commery et Lenoir mirent pied à terre, emportant avec eux la partie de marchandises qu'on était convenu de lui vendre, Et pendant qu'ils étaient à conclure le marché, je vis, en mettant la tête à la portière, qu'Annette avait parfaitement rempli mes intentions. Des inspecteurs que j'aperçus les uns stationnant le nez en l'air comme pour chercher un numéro, d'autres se promenant de long en large en manière de dégueuvrer, ne rôdaient sans doute dans ces environs que parce qu'ils y avaient été postés. Après 10 minutes d'attente, nous fûmes rejoints par les camarades qui étaient allés chez Bras. Ils avaient retiré 125 francs d'objets qui valaient au moins 10 fois plus. N'importe, on tenait les noyaux. Et ce n'était pas mécontent d'avoir réalisé, tant on n'était pas stressé de jouir. Il nous restait les paquets que nous avions resserrés pour la pomme rouge. Et parvenu rue de la Juiverie, Richelot me dit « Oh, ça c'est toi qui vas bloquer. Tu connais le fourga ?»« Oh, ça ne serait pas le plan, lui répondis-je. Je lui dois de l'argent et nous sommes brouillés. Je ne devais rien à la pomme rouge, mais nous nous étions vus. Et je savais bien, il savait bien que j'étais Vidocq. Il aurait donc été imprudent de me montrer. Alors je laissais les amis arranger les affaires, et à leur retour, comme l'apparition d'Annette dans le voisinage de la boutique me donnait la certitude que la police était en mesure d'agir, je fis la motion de congédier le fiacre et d'aller souper dans le cabaret du Grand Casuel, sur le quai Pelletier, au coin de la rue Flanche-Maillet. Depuis la visite chez la Pomme Rouge, nous étions riches de 80 francs de plus. Ainsi, la somme à notre disposition était assez considérable pour que nous puissions tailler en plein drap sans crainte de nous trouver à court. Mais nous n'eûmes pas le loisir de nous mettre en dépense. À peine avions-nous soufflé dans nos verres que la gardienne, et après elle une kyrielle d'inspecteurs, il fallait voir comme à l'aspect des vétérans et des mouchards, tous les visages s'allongèrent. Ce ne fut qu'un cri. « Oh, nous sommes servis !» L'officier de paix, Thibault, nous invite à exhiber nos papiers. Les uns n'en ont pas, d'autres ne sont pas en règle. Je suis du nombre de ces derniers. Allons, commande l'officier de paix. Assurez-vous de tous ces gaillards-là. Ce qui est bon à prendre est bon à vendre. On nous attache deux à deux et l'on nous emmène chez le commissaire. La pierre était accouplée avec moi. As-tu de bonnes jambes ? Lui dis-je tout bas. « Oui, » me répondit-il. Et quand nous sommes en hauteur de la rue de la Tannerie, tirant un couteau que j'avais caché dans ma manche, je coupe la corde. « Courage, la pierre, courage » m'écriai-je. Et d'un coup de coude dans la poitrine, je renverse le vétéran qui se tenait sous le bras. Peut-être était-ce le même qui depuis est devenu la pâture de l'ours Martin. Que ce fût lui ou non, je m'esquive et, en deux enjambées, je suis dans une petite ruelle qui conduit à la Seine. Là, personne ne me suit et nous parvenons ensemble à gagner le quai des Ormes. On avait perdu notre trace. J'étais enchanté de m'être sauvé sans avoir été obligé de me faire reconnaître. La pierre ne l'était pas moins que moi, car n'ayant pas encore eu le temps des réflexions, il était loin de me supposer une arrière-pensée. Cependant, si j'avais favorisé son évasion, c'était dans l'espoir de m'introduire sous ses auspices dans quelque autre association de voleurs. En fuyant avec lui, j'éloignais les soupçons que ses compagnons et lui-même auraient pu concevoir à mon sujet. Je les maintenais dans la bonne opinion qu'ils avaient de moi. De la sorte, j'espérais m'aménager de nouvelles découvertes. Puisque j'étais agent secret, il était de mon devoir de me brûler le moins possible. La pierre était libre, mais je le gardais à vue, et j'étais prêt à le livrer au moment qu'il me serait le plus utile. Nous allâmes, toujours courant, jusque sur le port de l'hôpital. Nous étions été enfin arrêtés. Nous entrâmes dans un cabaret pour y prendre répondre haleine et nous reposer. J'y fis venir une chopine afin de nous remettre les sens. « Ah, dis-je à la pierre, en v'là une fière de suer. Ah oui, elle est dure à avaler, celle-là. C'est encore plus à digérer, n'est-ce pas? Vaudra pas de l'idée, quoi. Ben, tiens, buvons. » Il n'eut pas plutôt vidé son verre. Il vint de plus en plus pensif. Non, 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 me dit l'autre, montra pas de l'idée. Mais ah, ça, voyons, explique-toi. Et quand je m'expliquerai, tu as raison, va. Tu ferais bien mieux de retirer tes bas que tu as tes pieds et la cravate qui est à ton cou. La pierre était à peu près dans la même tenue que le célèbre auteur du Pied de mouton. Lorsque, pour descendre dans le jardin du palais royal, il n'avait d'autres chaussures que les bas à jour et les souliers de satin blanc de sa maîtresse. Comme il me semblait apercevoir dans les yeux de l'ami ce point noir de la méfiance qui, si l'on y prend garde, grandit avec tant de rapidité, j'étais bien aisé de lui donner une de ces marques d'intérêt dont l'effet est de rassurer un esprit ombrageux. Tel était mon but en lui conseillant de retrancher de sa toilette quelques objets de peu de valeur que, pendant la revue du butin, ses associés lui avaient immédiatement appliqués à leur usage. « Mais que veux-tu que je fasse ?» me dit la pierre. « Ben, on les jette à l'eau. »« Oh, pas si bête. Des bas de soie tout neufs. Et un madras qui est pas encore usé. Belle foutaise. Tu veux rire, mon bonhomme. Jette donc les tiens. » Alors je lui fais observer que je n'avais rien sur moi qui n'eût pu me compromettre. « Tu es comme les lièvres, ajoutai-je. Tu perds la mémoire en courant. Tu te souviens pas qu'il n'y a pas de cravate pour moi. Et avec des mollets de cette taille, je relevais mon pantalon, ne veux-tu pas que j'aille mettre des bas de femme? Bon, vous autres qui irez au paradis de joie, nous sommes montés sur des flûtes, que tu veux dire? En même temps, s'étant déchaussé, il tournait et retournait les bas qui l'enveloppa dans le madras. Les voleurs sont tout à la fois avares et prodigues. Ils sentaient la nécessité de faire disparaître ces pièces de conviction. Mais le cœur lui saignait de s'en défaire sans aucun profit pour lui. Ce qui est le produit du vol est souvent si chèrement payé que le sacrifice en est toujours pénible. La pierre voulut à toute force vendre les bas et le madras. Nous allâmes ensemble, rue de la Bûcherie, les offrir à un marchand qui nous en donna 45 sous. La pierre paraissait avoir pris un parti sur la catastrophe du grand Casuel. Cependant, il était contraint dans ses manières et, si je jugeais bien de ce qui se passait à l'intérieur, malgré ses efforts pour me réhabiliter dans son opinion, je lui étais terriblement suspect. De semblables dispositions étaient d'ailleurs favorables à mes projets. Persuadé dès lors qu'il ne me restait plus qu'à en finir avec lui le plus promptement possible, je dis à la pierre, ben, « Si tu veux, nous irons souper à la place Maubert. »« Je le veux bien, » me répondit-il. « Je l'emmène aux deux frères où je demande du vin, des côtelettes de porc frais et du fromage. » À 11 heures, nous étions encore attablés. Tout le monde se retire et l'on nous apporte notre compte qui se monte à 4 francs 50 centimes. Aussitôt, je me fouille. Ma pièce de 5 francs. Oh, ma pièce de 5 francs, mais où est-elle? Je m'en informe à toutes mes poches. Je me tâte de la tête aux pieds. Oh mon Dieu, je l'aurais perdu en courant. Cherche la pierre, ne l'aurais-tu pas? Non, j'ai que mes 45 sous et pas un franc avec. Ah, ben donne toujours. Je vais tâcher d'arranger ça avec les parents de la fille. J'offre au cabaretier 2 francs 50 centimes en promettant de lui apporter le surplus le lendemain. Ben, il n'entend pas de cette oreille-là. Ah, vous croyez, dit-il, qu'il n'y a qu'à venir s'empiffrer ici et me payer en suite en monnaie de singe. Mais, lui fis-je observer, c'est un accident qui peut arriver au plus honnête homme. Compte que tout cela, quand on est désargenté, on se brosse ou l'on prend un livre. Et on va pas se taper un souper à l'ail, à crédit. Ne vous fâchez pas, mon brave, si cela accommodait les épinards à la bonne heure. Allons, pas avant de tant de raisons. Payez-moi ou je vais envoyer chercher la garde. La garde, tiens, voilà pour elle et pour toi, lui dis-je en accompagnant ses paroles d'un geste de mépris. Forte usité parmi les gens du peuple. Oh, gredin, c'est pas assez d'emporter ma marchandise, s'écrie-t-il en me mettant son poing sous le nez. Ne frappe pas, répliquai-je, à l'apostrophe, ne frappe pas où? Il s'avance, et de main de maître, je lui applique un soufflet. Pour le coup, c'était une rixe. La pierre prévoit que cela va devenir vilain. Et il juge qu'il est temps de jouer les flûtes. Mais au moment où il se dispose à gagner plus à pied qu'à la toise, sauf à moi à me débarrasser comme je prouverais, le garçon le saisit à la gorge en criant « Au voleur !» Le poste était à 2 pas. Les soldats accoururent et, pour la seconde fois de la journée, nous voici placés entre 2 rangées de ces chandelles de Maubeuge dont la mèche sent la poudre à canon. Mon camarade essaya de démontrer au caporal qu'il n'y avait point de sa faute, mais l'ancien ne se laissa pas fléchir et l'on nous enferma au violon. Dès lors, la pierre devint taciturne et triste comme un père de la trappe. Il ne serra plus les dents. Enfin, vers les 2 heures du matin, le commissaire fit sa ronde. Il demanda qu'on lui présente les personnes arrêtées. La pierre paraît le premier, et on lui dit qu'il sortira s'il consent à payer. On m'appelle à mon tour. J'entre dans le cabinet, je reconnais M. Lecoy, il me reconnaît également. et en deux mots, je lui explique ce dont il s'agit. Je lui indique que l'endroit où ont été vendus les bas et la cravate, et tandis qu'il se hâte d'aller saisir ces objets indispensables pour faire condamner la pierre, je retourne auprès de ce dernier. Oh, il était plus silencieux. « Le bandeau est tombé, me dit-il. Je vois ce qu'il en est. C'est fait à la main. » C'est bien, tu joues ton rôle. Mais moi, je te parlerai plus franchement. Oui, c'est fait à la main, et si tu veux que je te le dise, je crois que c'est toi qui nous as fait emballer. Non, mon ami, ce n'est pas moi. J'ignore qui, mais je soupçonne plus que qui que ce soit. C'est moi, je te soupçonne. À ces mots, je me fâche. Il s'emporte. À la menace succèdent les voix de fête. Nous nous battons et l'on nous sépare. Dès que nous ne sommes plus ensemble, je retrouve ma pièce de 100 sous. Et comme le cabaretier n'avait pas porté en compte le soufflet qu'il avait reçu, elle me suffit non seulement pour satisfaire à toutes mes réclamations, mais encore pour offrir à messieurs du corps de garde, je ne dirais pas le coup de l'étrier, mais cette petite goutte de la délivrance que le Pékin paye volontiers. Ce tribut acquitté, il n'y avait plus de motif de me retenir. Je filais sans faire mes adieux à la pierre, qui était bien recommandée, et le lendemain, je sus que le succès le plus complet avait couronné ma manœuvre. Les deux époux, Brass et la Pomme Rouge, avaient été surpris au milieu des preuves matérielles de l'infâme trafic auquel il s'était livré. On avait saisi sur les voleurs les effets qu'ils avaient immédiatement appliqués à leur usage. Ils avaient été contraints d'avouer. La pierre seule avait tenté la voie de la dénégation. Mais, confronté aux marchands de la rue de la Bûcherie, il finit par reconnaître l'homme, les bas et les madras accusateurs. Toute la bande, voleurs et recouxeleurs, fut écrouée à la force dans l'expectative du jugement. Là, ils ne tardèrent pas à apprendre que le camarade qui avait joué le personnage de Vidocq enfoncé était Vidocq l'enfonceur. Grande fut la surprise, comme ils durent sans vouloir s'être enfermés d'eux-mêmes avec un comédien de cette espèce. L'arrêt confirmé, tous furent dirigés sur le bagne. La veille de leur départ, j'étais présent lorsque leur passait le fatal collier. En me voyant, ils ne purent s'empêcher de sourire. « Contemple ton ouvrage, me dit la pierre. Te voilà content, gredin. Oh, je n'ai du moins aucun reproche à me faire. Ce n'est pas moi qui vous ai recommandé de voler. N'avez-vous pas appelé? Pourquoi être si confiant? Quand on fait un métier comme le vôtre, il faut un peu mieux se tenir sur ses gardes. C'est égal, dit Comery. T'as beau en coquer, en dénoncer, tu rabattras au pré, tu retourneras aux galères. En attendant, bon voyage. Redonnez ma place, et si jamais vous revenez à Pantin, à Paris, vous ne laissez pas plus prendre au traquenard. » Et après cette riposte, ils se mirent à converser entre eux. « Il se fout encore de nous, » dit Rousselot. « C'est bon, oh, je lui garde un chien de ma chienne. »« Pour ton honneur, parle pas, lui répliqua le garçon de chantier. C'est toi qui l'as amené. Puisque tu le connaissais, tu devais savoir qu'il était à la banque, capable de trahir. Eh bien, mais c'est Rousselot qui nous vaut ça, soupira la pomme rouge, sous le marteau, dont le coup déjà lancé faillit lui rompre la tête. Ne bouge donc pas, recommanda avec brutalité le serrurier de l'établissement. Toujours est-il, reprit le receleur, que c'est lui qui a vendu la carbasse et que sans lui, te tiendras-tu, Martin ? Gare à la caboche ! Ces mots furent les derniers que j'entendis. Mais en m'éloignant, je vis un certain geste que le colloque s'animait de plus en plus. Que se disait-il ? Non, je n'en sais rien.